Alors, les questions, il faut poser, parce qu'à travers les questions, on peut encore approfondir des choses intéressantes. Merci. Ah, Fabienne est adorable, Fabienne. Un être exceptionnel. Fabienne a fait la formation à Sigoyé. On va vous parler après des formations, comment ça se fait. Il y a un couple qui s'entend l'approche d'une façon intégrale, la mère Sophie et Jean-Marc. Et justement, Chantal, que j'appelle la mère Sophie, a fait des expériences tellement profondes, à tel point qu'on est en train de restructurer les anciennes définitions du soufisme à travers les noms divins. On a structuré la projection des matrices principales dans le corps. Et c'était son voyage, il a voyagé. Moi, je lui ai dit un jour, Chantal, tu vas recevoir dans ton corps l'expression de ces matrices. Ah, il m'a dit, mais attends, moi je ne suis pas dans cette mouvance, je ne connais ni l'arabe, parce que c'est des concepts en arabe. Après une semaine, il a commencé à vivre dans son corps, à travers réellement actualiser les matrices, à travers chaque organe. Et on est en train de faire un travail au niveau même psychologique de certaines matrices. Et elle sort, on n'a pas eu pour vous faire projeter des images, des schémas qu'elle a fait d'une beauté extraordinaire, ses visions intérieures. Et Fabienne, elle a fait la formation il y a longtemps aussi. Et elle était aussi dans sa structure réelle. Elle a apaisé ses trois cerveaux et elle est rentrée dans sa mouvance harmonieuse. Donc il y a des exemples de ce genre. Mais il y a aussi des gens qui n'ont pas pu approfondir l'impulsion, qui n'ont pas persévéré dans l'intégration. On ne peut pas généraliser quoi que ce soit. C'est ça la nature de la diversité. On ne peut pas dire que ça, c'est un système polyvalent pour tout le monde. Non. C'est le charme de la création et de la diversité. Merci Fabien, merci Sophie, Jean-Marc.
Merci à l'orateur également. On lui laisse 2 petites secondes pour qu'il puisse apaiser sa
Non, non, c'est bon, c'est bon. Pas de problème.
Et je suis persuadé que vous avez mille et une questions à lui soumettre ou réflexionner. N'hésitez pas.
Parce que hier, j'étais surpris, il y avait plus de 200 personnes, il y avait peu de questions. C'est le moment de rentrer dans les phases de questions. Alors, on va faire circuler Fabienne. Ouais, Fabienne. Ouais. Bien, je te mets en.
Comment rattachez-vous le concept des champs morphogénétiques à votre approche officielle?
Bonne question. Très bonne question. Alors, les champs de Sheldrake, les champs morphogénétiques de Sheldrake. Au départ, il n'a pas pu mettre une énergie spécifique dans les champs morphiques. Pour lui, c'est une information qui est au-delà de la vitesse de la lumière, c'est une impulsion qui va au-delà de la vitesse de la lumière. Mais dans l'approche matricielle, on a structuré le contenu énergétique d'une matrice. Pour te donner un exemple, une matrice a deux natures. Elle peut être une matrice de connexion. Et une matrice de connexion, elle a dans sa structure énergétique une énergie gravitationnelle. C'est pour ça qu'au début, je vous ai dit que l'ovule fait l'expérience de la chute pendant l'ovulation. Elle va intégrer une information gravitationnelle qui va lui permettre la connexion. La gravitation relie. L'énergie qui est dans une matrice négative, traumatique ou toxique, est une énergie électromagnétique du voile. Donc nous, on a plus défini les concepts et on est allé vers la finalisation. On peut assimiler le champ morphique à une matrice, mais simplement la matrice est en plus est habitée par de l'énergie de l'information qui peuvent être de deux natures différentes. Alors que le champ morphique est un concept abstrait qui, pour Sheldrake, une impulsion qui va avec une vitesse presque supérieure à de la lumière. C'est ça sa définition au départ, et qui était une vision intérieure au départ. Sheldrake, il était en Inde, dans un ashram, et il a eu des visions de ce genre. Donc vous voyez que l'intériorité prédomine dans ce genre de concept. Mais on peut trouver des analogies. Oui. Question.
Oui, bon, j'ai la voix assez forte.
Voilà, la voix assez forte. Un Young, adorable Young.
Vous parliez tout à l'heure de l'accélération du temps.
Oui.
Qui est quand même assez sensible.
Oui.
Je pense que tout le monde ici s'est rendu compte que, par exemple, en 99, depuis 99, l'accélération des événements nous a bien fait la démonstration de l'accélération du temps. Est-ce que cette accélération du temps dont vous parlez a un rapport avec les inframondes qu'ont déterminé les Mayas?
Oui. Il y a une possibilité, parce que vous voyez, nous, on vit une époque scientifique. Donc on n'a pas besoin de reprendre, c'est ça ce que je dis souvent, une tradition dans sa nature ancestrale. Maintenant, on vit une époque scientifique. Et l'élément le cerveau gauche, le cerveau droit, les synchronisations, l'élément le plus important, c'est qu'on prend une particule, on va l'accélérer. On va la faire vivre à un temps différent. Pourquoi on l'accélère? Pourquoi on est arrivé à cette technologie? C'est parce qu'en nous, il y a une accélération des particules endogènes qui ouvre un autre espace-temps. Le monde phénoménal reproduit le monde intérieur. En permanence, on reproduit à travers notre création, nos théories, ce qui se passe à l'intérieur. Sheldrake, je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu cette ouverture à travers une expérience intérieure des champs morphiques. Donc l'accélération temporelle des particules qui vont vivre des situations différentes quand on va les accélérer.
Contractent.
Oui, ils vont se contracter, ils vont rentrer dans ce fameux cet état d'hypercondensation, c'est-à-dire un trou noir, pour se canaliser et sortir dans un autre univers. Et en plus, quand ils vont se contracter, ils vont générer une autre lumière, c'est-à-dire ce qu'on appelle la particule de X, qu'on est en train de chercher, et qui est liée, elle, ce qui est fondamental, liée à trois vecteurs qui sont dans la force nucléaire faible, et qui sont le W0, W moins, W plus et Z0. Et ces trois vecteurs, on peut les assimiler au niveau de notre cerveau comme étant W moins, c'est de l'émotionnalité, l'émotion négative. W plus, c'est l'émotion positive. Et Z0, c'est de l'amour qui est généré par la force nucléaire faible qui est dans chaque particule de notre corps. C'est-à-dire, par opposition à la force électromagnétique qui, elle, génère une lumière photonique sans masse, la force nucléaire faible génère une lumière avec une masse. Pourquoi les physiciens l'ont appelée faible? Mystère, elle n'a rien de faible. Elle est mille fois plus importante que la force nucléaire forte. Mais elle génère des ouvertures au niveau de la prise de conscience de la matière noire et de l'énergie noire. Donc le voile fait l'impossible pour réintégrer, pour se placer au centre de la scène. Donc la rapidité, l'accélération du temps est une donnée qu'on vit actuellement avec notre technologie, notre connaissance actuelle. Abstraction faite sur le passé qui est aussi avec eux des événements de ce genre. Maintenant, on vit cet événement d'une façon objective. Oui, 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 bien sûr.
Les trois vecteurs dont vous faites état, W à 0, plus, moins,
ouais.
Est-ce qu'ils représentent, est-ce qu'ils ont un caractère fréquentiel?
Alors, le fréquentiel, je crois qu'ils ont une masse déjà. Et la masse, par opposition au photon qui n'a pas de masse, je compare pour que je vous donne les principes essentiels pour faire la différence entre la lumière lourde et la lumière éphémère, illusoire, électromagnétique. La lumière lourde, elle est structurée par ces trois vecteurs, hein, qui sont des composantes de la force nucléaire faible. Par conséquent, ils ont une masse, je crois que énormément par rapport même aux protons. Je ne me rappelle pas de la masse. Mais le photon n'a pas de masse. Ce que je vois, cette lumière qui est électromagnétique, même la lumière du soleil, quand je la perçois avec mon champ de matière lumineuse, je perçois son aspect électromagnétique. Je ne perçois pas la lumière réelle du soleil. Pire que ça, quand je prends un télescope, je l'oriente dans l'espace pour voir, soi-disant, Mars. Qu'est-ce que je vois? Une planète déserte. Je vois une autre planète du désert. Pourquoi? Est-ce que c'est seulement la Terre qui est habitée? Oui, on a des explications, parce qu'elle est plus proche du Soleil. Non. Parce qu'on voit avec une réduction. On voit avec 0,05%. Si on voit avec des yeux matriciels qui s'ouvrent sur la totalité, je vous assure qu'on va voir un univers hyper peuplé d'entités vivantes, intelligentes, connectées à la source.
Donc peut-être nous,
bien sûr,
un autre lui.
Tout à fait. On peut approfondir cette idée fondamentale. Merci Habibi, merci. Vous voyez, alors le champ morphique, si vous voulez, c'est, on peut le définir de cette façon, c'est-à-dire quand il y a une information qui va se déplacer. Quand je vous parle maintenant, il y a une énergie, information qui va parvenir jusqu'à votre cerveau, vous allez l'intégrer. C'est une information, une énergie. Parfois, à travers un espace énorme, on peut par exemple, on peut prendre quelqu'un, on va le poser en Afrique, un autre en Asie, et on va donner un élément, deux éléments de structure. Et quand ces deux éléments vont rentrer en résonance, ils vont créer un champ d'information qui va se propulser à travers l'espace et informer et celui qui est dans l'Afrique et celui qui est en Asie. C'est-à-dire c'est un support d'information qui va se déplacer d'une façon énorme au-delà du temps et de l'espace. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai une idée, maintenant, il va y avoir une personne qui va avoir la même idée en même temps, dans un autre univers, ou un autre espace, ou un autre... Au niveau de... La télépathie aussi, on peut l'associer. Mais la télépathie, c'est un concept qui va générer aussi le visuel, l'auditif, alors que le champ morphique peut générer d'autres perceptions, même au-delà des perceptions. Il est plus global. Oui, Habib.
Beaucoup de cette information qui circule de A à Z,
ouais,
dans le cas du champ morphique, comment intervient la cacha en tant que relais, enfin moi je le vois comme relais, par rapport à cette information qui circule entre,
voilà,
plusieurs êtres.
On peut... Tout à fait. On peut enlever le concept Akasha et mettre la matrice unicitaire. On retrouve les mêmes événements. L'Akasha, si tu veux, c'est le substratum appelé éthérique, mais il est au-delà même de l'éthérique, le substratum non temporo-spatial dans lequel va se greffer les matrices qui vont générer une telle création à un tel temps. Un tel espace, dans tel point de l'espace. On peut dire que l'akasha primordial, c'est la matrice qui a donné forme à tout le monde manifesté. Et dans l'akasha revient tous les événements mémorisés et mémorisables qu'on a vécu et qui peuvent se recycler en permanence. Tant qu'on n'a pas intégré notre essentialité à travers le voyage au-delà du voile, parce qu'il faut voyager au-delà du voile, quand on reste au niveau du voile, on va être en permanence, on va subir les mémoires, on va être en permanence en train de répéter des événements. Et finalement, on va rester bloqué au niveau du canal, du passage. On ne va pas sortir dans notre essentialité. L'akasha, c'est la matrice unicitaire. Et dans l'akasha, il y a les transferts d'informations. C'est-à-dire quand on va quitter le corps, rentrer dans le canal. Dans le canal, il y a un akasha spécifique du canal. Une matrice spécifique. Dans cet akasha, il y a une réflexivité. Tu deviens témoin toi-même de ce que tu as fait toi-même, à travers toi-même. Il n'y a plus possibilité d'échange informationnel. Tu es dans un espace fermé avec toi-même, en toi-même. Et c'est ce que les Égyptiens, à travers les temples, ont essayé de reproduire pour faire cette expérience, pour s'habituer à cette fameuse expérience d'échange informationnel fermé. Il n'y a pas pire de se juger soi-même d'une façon juste. Et dans ce voyage, à travers ce canal, le jugement est parfait. Mais toi-même qui se juge à travers toi-même. Mais si on a une information, une énergie de la source, si on a une information, une énergie qui augmente par un effet cumulatif à travers la transcendance, il y aura un passage fluidique, intense, sans qu'il y ait des arrêts pour s'auto-juger.
Comment on peut avoir l'information de la source ?
Méditer et transcender. Les outils que j'ai essayés, qui ont marché, que je donne à tout le monde, ça peut marcher. Comme ça peut ne pas marcher, mais l'expérience a montré que ça marche souvent.
Oui, bonsoir. La lumière artificielle, les micro-ondes, le portable, tout ça, ça a été si loin.
Ouais.
Le fait de vivre une péridurale, ça ne marche pas, ça encore.
Alors voilà.
Le problème,
ouais. Il ne suffit pas d'être contre la technologie, au contraire. Le champ électromagnétique, c'est un voile, certes, mais il fait partie de la totalité. C'est 0,05%, mais il fait partie de la totalité. Ce qu'on doit savoir, on doit apprendre à réintégrer notre complémentarité, le reste, notre réalité, sans rejeter, tomber dans le rejet encore. Le voile, il va faire partie de notre vie, mais d'une façon réelle, on va être complètement intégré dans notre multidimensionnalité. Quand on va transcender, quand on va apprendre à intégrer le dévoilement, le voile devient réfractaire. On ne va pas lui donner de l'importance. On sait ce qu'on est. C'est ça la thérapie du terrain.
La conscience sera donc élargie.
Tout à fait. Et comme ce qu'on fait en allopathie, le drame de l'allopathie, qu'est-ce que c'est ? C'est donner trop d'importance aux éléments extérieurs. Le microbe, le parasite, il faut le tuer, il faut se préserver, prévention, antibiotiques, au lieu de renforcer le terrain. La même chose, on renforce notre terrain spirituel par la connexion de notre complémentarité. Bon, le voile qui est un élément extérieur, c'est comme le parasite, il devient réfractaire, on lui donne plus cette importance qu'on lui donne maintenant. Maintenant, c'est tout ce qui existe pour nous. On a fait le mouvement inverse. On a renié notre essentialité. simplement ce que je vois qui existe. Notre science est calquée sur ce modèle. Ce qui existe, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on objective. Ce corps, il est le seul à être dans l'existence. Alors que ce corps me donne, qu'est-ce qu'il me donne ce corps ? Le temporel linéaire qui est calqué sur le vieillissement. Il me donne la peur de la mort parce que je m'identifie à ce corps, je vois mon voisin mourir, j'ai peur de mourir. Parce que je me suis identifié à ce corps et j'ai laissé mon essentialité. Qu'est-ce qu'il me donne, ce corps ? La souffrance, la maladie, le vieillissement. Il me donne toutes les résonances qui sont en compatibilité avec la linéarité. Alors que l'autre partie de moi-même qui est occultée, qui n'est pas explicite, qui est restée pendant des milliers d'années cachée, non manifestée, c'est ça ma réalité. Qu'est-ce qu'elle me donne cette partie ? Elle me donne mon aspect éternel que j'ai oublié. On est des êtres éternels et on a complètement été piégé par ce voile qui nous a propulsés dans l'éphémère. Et il me donne cette sensation réelle d'être multidimensionnel. Et cet état de non-séparabilité, cet état fusionnel avec la source. Attention, on ne perd pas notre individualité, au contraire. L'individualité se renforce, mais elle est diluée dans l'universalité.
Justement, à propos, vous venez de parler du corps, dans notre société où le corps est complètement idéalisé.
Oui, voilà. Le culte du corps.
Par contre, on s'aperçoit que dans le soufisme, il y a la danse, qui est une possibilité de réintégration de la matrice. J'aimerais votre opinion sur l'art dans sa partie la plus supérieure. Ah. De là, ouais. La possibilité justement de l'intégrer.
Bonne question. Bonne question. Très bonne question. L'art, c'est la façon la plus simple et la plus ingénieuse pour réintégrer la créativité non manifestée. Justement, les images qu'elle a vécues, Chantal, c'est un art nouveau, dans une expression nouvelle, d'un vécu. Et à part, on va vous montrer la prochaine fois les schémas qu'elle a vécu. C'est un art formidable. C'est des mandalas dans lesquels on trouve et les lettres hébraïques et les noms divins, les matrices soufis, les noms divins, les matrices principales. Et on trouve des formes géométriques parce que l'espace réel est matricialisé et des formes d'une beauté extraordinaire. Et le mouvement aussi est un attracteur de la forme. Et quand il y a un mouvement, c'est une façon pour actualiser le rythme. Il y a plusieurs façons pour actualiser le rythme. Quand le mouvement s'installe, le rythme est un résonateur qui va nous faire rappeler notre essentialité. Mais il y a plusieurs rythmes. Il y a un rythme qui est anarchique, la musique moderne, pleine de rythmes. Un petit peu dans le voile, parce que même la musique synthétique à travers le voile, il y a le rythme qui est dans cette mélodie qui s'exprime à travers les symphonies, un rythme qui est axé sur le nombre d'or. Mais il y a un autre rythme qui est encore plus profond, le rythme transcendantal, qui est lui axé sur le silence, un rythme silencieux. Et qui est intégré dans le nombre radiant, qui est hyper changeant à chaque instant, qui est le nombre quantique par excellence. Parce que quand on fixe un nombre, on est dans l'état de fixité, on est incompatibilité avec la source qui est en plein changement. La musique céleste, c'est du silence qui se voit lui-même, à travers lui-même, par lui-même. Oui.
Qui entendent pratiquement, on va dire.
En permanence, des sifflements. Et j'ai eu pas mal de cas comme ça.
Ça ne s'approchait pas un petit peu
Alors, les acouphènes, déjà, c'est un problème qui va intéresser un côté. Il peut intéresser un côté énergétique comme un côté lésionnel. On peut avoir des lésions. Mais au niveau de l'écoute intérieure, la méditation peut diminuer cette exagération de ce son qui nous perturbe. Quand on s'intériorise, on va progressivement quitter la sphère du corps limité et limitant pour réintégrer progressivement notre essentialité, et on va chanter ce bruit, même s'il est là, on ne va pas lui donner de l'importance, parce qu'on n'est pas centré et concentré dans le corps, on est dans cet aspect d'expansion de la conscience. Il peut persister. Il y avait des grands maîtres qui avaient des pathologies lourdes, gravement malades, mais c'était pas gênant dans leur structure, parce que la pathologie concerne 0,05%. On fait pas le culte du corps, c'est pas le culte de la longévité, non. L'approche matricielle insiste sur la complémentarité. Comment intégrer notre complémentarité? C'est pour ça qu'on est un peu au-delà des phénomènes médicaux. Mais la transcendance va actualiser cette écoute de notre complémentarité qui peut nous aider à oublier les problèmes qui sont dans ce corps physique et qui sont, par rapport à la masse globale de notre réalité, négligeables.
Moi, je le rapporte à l'éparpillement que crée cette société actuelle, qui fait que nous sommes décentrés de notre être.
Oui.
Je fais une comparaison, par exemple, lorsque vous écoutez un poste de radio et que vous voulez passer d'un émetteur à l'autre. Lorsque vous êtes sur l'émetteur, vous entendez très précisément que le speaker. Et lorsque vous voulez aller sur un autre émetteur de radio, vous avez ce qu'on appelle le souffle. Eh bien, moi, je fais une relation entre ce souffle qui est dû au fait que l'on n'est pas accordé sur une fréquence bien précise de l'émetteur, qui fait qu'on a tout un tas de parasites qui viennent, et je pense que ça fait sensiblement la même chose au niveau de notre conscience. Voilà.
Oui, simplement, Habibi, il y a une différence, il y a une nuance à apporter. Tout ce qui est fréquentiel, c'est de l'ordre du champ électromagnétique. Et cette énergie-information est d'un autre ordre. Elle est de l'ordre d'une énergie matricielle et qui est inversement proportionnelle à l'énergie électromagnétique. Si on prend une équation, on peut dire que quand il y a une augmentation du champ électromagnétique, le champ matriciel diminue et vice-versa. Ils sont couplés. C'est un couple à progression, dans une progression inversement proportionnelle. C'est ça ce qui fait le charme. Ils sont couplés, le voile et le non-voile. Quand l'autre augmente, l'autre diminue. Bien sûr, quand on donne trop d'importance au voile, eh bien, notre nature disparaît, notre complémentarité n'est plus visible. Quand le voile diminue, c'est-à-dire le champ électromagnétique diminue, il y a plus d'ouverture dans le champ matriciel. Et justement, depuis 5 ans ou plus, j'étais un peu obsédé pour mettre en évidence, pour objectiver cette énergie. Alors j'ai vu des amis en Italie, des ingénieurs, j'étais en train de leur expliquer ma démarche, pourquoi ils me disent, ils me prenaient pour impossible de mettre en évidence ça. Et j'ai réussi à mettre en place un petit appareil qui génère de l'énergie matricielle, que je suis en train de former les gens pour l'application. C'est un autre volet de l'approche matricielle, la technologie matricielle. Je suis en train de mettre en évidence cette énergie, c'est-à-dire de mettre des électrodes et de me brancher sur un appareil et de nourrir le corps qui va progressivement, à travers cette énergie, on va subtiliser les matrices perverses, les mémoires traumatiques, et purifier notre conscience. Oui, oui. Moi, je préfère la première solution. Mais vous savez, il y a des gens qui sont pratiquement fermés au tout processus méditatif. Pour eux, c'est attention, c'est une secte, encore la méditation, encore une technique, technologie de la conscience. Non, pour eux, c'est dangereux. Alors, c'est pour ça que je voulais objectiver cette énergie. Et j'ai commencé à Paris à faire des... pas des soins, parce que je ne fais plus de soins, faire des séances matricielles. Je reçois des gens, je donne cette énergie information à travers ces appareils, et j'étais surpris de l'évolution. Pratiquement tous ceux qui viennent, qui sont venus pour des séances, pour des soins, ils terminent dans la formation en essayant de méditer. Ils ont eu cette ouverture. Au départ, ils n'ont même pas voulu entendre parler de la méditation ou de la structure intérieure, tout ça. Mais une fois qu'on a nourri leur corps avec cette énergie, et qu'ils sentent, quand après une séance, ils me disent, waouh, une relaxation, un sommeil d'une profondeur. Et le corps est avide de cette énergie. Et juste après, un mois ou deux mois de séance, à raison d'une fois par mois, moi je parie, je vais une fois par mois. Et ça fait 6 mois que Paris, je ne l'ai pas. Cette énergie réveille la conscience du corps. Et l'éveil de la conscience du corps, c'est-à-dire l'éveil de ce qu'on a occulté, l'énergie noire, matière noire, rayonnement noir. Et là, c'est une façon indirecte. Et j'étais agréablement surpris de ce résultat. Je voulais objectiver, j'ai fait les séances avec ces machines. Bien sûr, c'est un état réductionnel. Quand je parle de machine, c'est déjà un état réductionnel. Moi, je préfère le développement personnel, avec une pratique intérieure. Il y a des gens qui souffrent aussi, qui sont malades. Et qui, quand tu leur parles de la méditation, disent « Mais pour moi, maintenant, je souffre. »
D'ailleurs, il est difficile de méditer
quand on... Ah oui, on a une douleur. Ah, on se branche sur cette petite énergie matricielle qui est engrammée sur cette carte puce. La technologie nous a aidés maintenant. Il faut profiter du voile pour aller au-delà du voile. C'est l'astuce pour aller. Et justement, on sent des choses importantes. J'ai travaillé avec un ingénieur à Paris qui était un peu sceptique. Et il est venu une fois avec une crise de foi intense. Il est rentré, je lui dis, ah bien, c'est le moment pour tester. Ben, je l'ai branché. 10 minutes après, ouais, ton truc marche. J'ai envie de manger. Bon, c'est des expériences qu'on peut avoir, mais ce n'est pas systématique encore. Donc l'énergie matricielle, on peut l'objectiver.
En tout cas, ça vaut bien la chimie.
Ah oui, ah oui. Ah oui, c'est sûr.
Mais est-ce que la réincarnation, justement, fait partie, la croyance à la réincarnation, fait partie du voile, justement,
c'est le voile lui-même qui a engendré ça. Tout à fait. Le voile qui a engendré cette croyance. Pour qu'on ne puisse pas réintégrer notre éternité. Il nous a remplacé l'éternité par le mouvement de la réincarnation. C'est le voile, l'archétype du voile. Attention, le voile, il a un archétype. Il se loge dans un espace-temps particulier qu'on appelle l'astral. Le voile est dans l'astral. Et le voile, c'est, il se nourrit à travers les pensées négatives qu'on va structurer en permanence. On est en train de le nourrir. Et quand on va quitter ce corps, et quand on n'a pas encore réalisé qu'il y a deux formes d'archétypes, il y a l'archétype réel, orthologramique, et l'archétype du voile qu'on appelle métahologramique, parce qu'il y a un Christ du voile, une lumière mohammedienne du voile, un Moïse du voile, et on peut se connecter d'une façon facile avec l'un ou l'autre. Prenons une prière. J'étais à Florence et j'ai vu une dame lire. J'adore la prière des chrétiens. Là. Notre Père. Moi, je remplace des mots par d'autres mots. Parce qu'il y a des mots chargés. Et je lui ai proposé, je lui ai dit, tu vas remplacer un mot par un autre. Ça s'appelle là, voilà. Je lui ai dit, là, voilà, tu remplaces ça. Il m'a dit, c'est vrai, je sens que ma prière ne passe pas. Je lui ai dit, passe, change un petit mot, parce que pour moi, le mot peut, une fois balancé dans le manifesté, peut nous connecter avec le réel ou avec le voile. Mais le mot qui m'a dérangé, c'est la mère divine, la mère de Dieu. La mère de Dieu, ça m'a gêné. Peut-être que c'est ma culture aussi, mais ça m'a gêné. Je lui ai dit, tu remplaces et tu vas tester. La mère divine. Au lieu de dire la mère de Dieu, là tu structures une linéarité catastrophique parce que tu mets au point deux matrices unicitaires. Donc tu vas ébranler l'univers. La mère de Dieu, Dieu a une mère, a un père, a un grand-père. Tu vas dans l'enchaînement linéaire. Mais quand tu dis la mère divine, tu es dans la réalité de l'événement. C'est une mère divine. Je vous assure, il a fait la prière une semaine, il est revenu, il m'a dit, tout a changé, c'est rapide, je me sens mieux. Bien sûr, la prière après la transcendance. On ne peut pas prier tant qu'on n'a pas transcendé. Il faut d'abord transcender pour que la prière prenne forme. Si on commence à faire une prière d'une façon limbique, c'est répétitif. On va se faire plaisir, on va faire plaisir au cerveau limbique. On va lire la prière, mais ça devient mécanique. Bon, il y a l'émotionnel, mais l'émotionnel est limbique par nature. Tant qu'on n'a pas intégré la transcendance, nos prières sont plus ou moins faible. Oui.
Par rapport à ce que vous venez de dire par rapport à l'énergie matricielle,
j'aimerais savoir, l'énergie matricielle correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui les énergies du vide.
Oui, plus ou moins.
Voilà. Les énergies. Il y a pas mal de chercheurs qui ont dit ça, qu'on peut épuiser l'énergie limitée
tout à fait.
Bon. Par rapport à ce que vous parlez aussi, un de ces chercheurs est aux États-Unis aussi, Thomas Edward Burden.
Oui.
Je pense que ce que vous appelez les champs matriciels, c'est la théorie des ondes scalaires.
Les ondes scalaires.
Oui.
Il y a une analogie.
D'accord.
Il y a une analogie parce que les ondes scalaires sont structurées aussi dans le fréquentiel électromagnétique. Alors que l'énergie matricielle est une énergie qui n'est pas électromagnétique. On peut l'assimiler à l'énergie du vide, du point zéro. Mais l'énergie du point zéro a été mis en évidence à travers la même méthodologie qui a valorisé la matière lumineuse. Pourquoi on trouve du vide? Parce qu'on n'a pas une méthode matricielle qui va révéler la matière noire et l'énergie noire. Même les équations, notre méthodologie mathématique est axée sur un modèle électromagnétique. Quand je l'ai mis en évidence, c'est à travers les champs de forme, à travers la géométrie sacrée, à travers le nombre radiant qui bascule à travers le nombre d'or. Là, on peut engrammer une énergie matricielle au-delà de l'énergie électromagnétique.
Tout ce que vous parlez, ça nous rappelle une tradition aujourd'hui qui est en train de ressortir.
Une tradition qui est en train de ressortir qui vient du fin fond de l'Amazonie. Donc, il parle des êtres de lumière noire.
Formidable, j'ai jamais entendu ça, c'est intéressant.
Cette tradition-là, en fait, pour ces courants chamaniques du fond de l'Amazonie, il y a des êtres qui sont au-delà de ce que vous appelez le voile,
ouais.
Puisque pour eux, les religions, enfin, ils appellent ça occidentalement le prédateur,
prédateur
culturel et religieux, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'énergie des matrices qui consomme les individus et leurs énergies, qui s'en nourrit. Et dans cette tradition-là, ils appellent donc leur tradition, en fait, ils appellent ça une tradition vampirique, parce que les êtres qui se situent donc au-delà du voile électromagnétique sont perçus comme des êtres extrêmement mauvais, parce que la matrice s'est dépassée sous cet aspect-là, c'est-à-dire que si les gens sont en contact avec ces êtres de cette voie, ils auront une frayeur assez intense, puisque leur tradition est reliée à ce qu'ils appellent, eux, la ténèbre, c'est-à-dire le monde du donc sont de la lumière noire, donc de la masse noire, puisque dans cette tradition-là, quand l'être 4 en lui-même a ces entités qui sont nous-mêmes de la lumière noire, il y a une modification biologique dans l'adepte qui fait qu'il active autour de lui un champ électro-gravitationnel extrêmement intense qui ouvrirait des portes donc multidimensionnelles où l'adepte est capable de changer de forme, de passer dans d'autres dimensions, etc. Et aujourd'hui, cette tradition est en train de ressurgir tout doucement.
Très bien.
Et elle serait apparemment selon les chamans de cette tradition-là. Les êtres, tout à l'heure, vous avez parlé que lorsqu'on est dans la transcendance, on est passé le voile, on peut les percevoir. Ces êtres-là constitueraient pour eux une réalité extraterrestre objective qui est voilée par nos programmes de conscience subjective qui forment notre réalité.
Merci, Habibi. Formidable. Une bonne analogie. Simplement. Ah, très bien. Très bonne analogie. Bravo. Dans la tradition, il y a quelque chose de très important à intégrer, et en même temps, il faut faire attention parce que c'est un transfert temporel qui va se faire. Et dans le transfert temporel, les éléments ne sont pas adaptés d'une façon systématique. On peut prendre quelques éléments de la tradition chamanique, mais il ne faut pas toucher à la totalité. Et même, ça devient dangereux, ce transfert temporel, parce qu'on vit un autre espace-temps de technologie, où on doit mettre des concepts scientifiques. Peut-être que eux, dans leur tradition, ils vivent le même espace-temps. Nous, on n'a pas le droit de faire un transfert de concepts, parce que quand on va faire un transfert de concepts, on laisse les mêmes concepts. Le concept est une entité vivante. On va vivre leur expérience. Mais on ne peut pas gérer ce qui va se passer. C'est tellement fort. Mais eux, ils sont équipés, biologiquement équipés, pour gérer ce genre d'expérience. Nous, qu'est-ce qu'il nous faut? À travers notre éducation occidentalisée, un système simple de transcendance. C'est pour ça que, quand on fait un transfert intégral d'une tradition ancestrale, il y a un risque de ne pas gérer les conséquences. C'est mon point de vue. Ça, les êtres de lumière noire, j'ai jamais entendu parler, ça, c'est formidable. Mais c'est de la lumière noire. Moi, ma première expérience avec le soufisme, j'ai vu un grand maître soufi qui est toujours vivant, qui s'appelle Sidi Hamza. Ça fait plus de 30 ans, je suis allé le voir. Et j'ai eu une expérience de ce genre. J'étais propulsé dans une lumière noire. Je me suis dit, c'est ça le soufisme. J'ai eu une peur. Moi, je veux la lumière. C'est cette lumière noire. Ce noir intense, mais lumineux dans sa structure intrinsèque. Et c'était un petit peu, pour mon ego, mon cerveau limbique, c'était une révolte. Comment ça se fait? Bon, j'ai pas aimé. Mais après, j'ai compris la réalité de cette lumière noire qui est dans la structure de notre complémentarité. Kali, la déesse noire de Ramakrishna. Ramakrishna, oui.
Pourtant, la lumière noire semble supérieure en fréquence au spectre.
Elle n'est pas fréquentielle. C'est le mot lumière, mais il n'est pas fréquentiel. C'est un lapsus, on n'a pas trouvé de mot. On dit lumière lourde, par opposition à la lumière électromagnétique et photonique, parce qu'elle est de masse nulle.
Alors, pour en revenir à notre accélération du temps des Mayas,
ouais,
galactique, et nous allons passer à l'inframonde universel en 2011.
Mm-hmm.
Et ça doit se terminer le 21 décembre
2012.
Voilà, donc là, nous avons changé de monde.
De cyclicité. Non, non. On rentre dans une autre résonance du monde. Un autre, même au niveau cosmique, une autre influence qui va s'activer.
D'accord. Alors, qu'est-ce que vous
envisager comme le changement appréciable pour nous humains.
Habibi, tu es formidable. Je te tutoie, je m'excuse. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que on a tendance à se projeter. Tu me propulses vers la projection, on va jouer ce jeu. Parce que la projection, c'est une...
On quitte le moment présent.
Ouais, c'est une éducation limbique. Il n'est jamais dans le moment présent. Mais on va jouer ce jeu pour dire quelque chose d'essentiel. Dans la cyclicité des univers, quand un univers quitte son vortex créationnel à travers le trou noir, le trou de verre et le trou blanc, il va évoluer à travers sa résonance nouvelle. Mais il va traverser des espaces. Et dans ces espaces, il y a des mémoires akashiques. Il se peut qu'on est en train de toucher une mémoire akashique 2012. Et cette mémoire nous donne des informations comme quoi il va y avoir des événements catastrophiques. Mais ce n'est pas pour nous, c'est une mémoire d'un univers antérieur. Ce n'est pas une nécessité, c'est une mémoire qu'on doit purifier. Comme une mémoire toxique qui est à l'intérieur de notre corps, on va la subtiliser. Ce n'est pas une nécessité absolue. Au contraire, elle est là pour être purifiée, pour qu'on puisse aller et faire un saut quantique au-delà de cette mémoire. C'est une résonance à purifier.
Avec un élargissement
de la conscience collective. Avec plus de transcendance d'une façon collective.
Mais ça vous
plaît. Voilà. Une belle projection. Ouais. En transcendant Habibat, si tu transcends, tu sensibilises par un effet d'interconnexion. Tu es connecté à la totalité.
Hologramme.
Ah, un effet hologrammique. Tu médites, tu transcendes et tu vas cristalliser l'espace, tu vas matricialiser l'espace.
Ce qui se passe en nous se passe partout.
Voilà. Oui, je veux bien. Mais pas facile, hein. Ah oui, oui. Non, mais en douceur, en douceur. Vous savez que quand on utilise la volonté, la force, c'est un mécanisme qui provient du cerveau limbique, des automatismes, la volonté. Parce qu'on a été éduqué à travers la volonté et l'effort. On doit tout faire à travers l'effort. La loi du non-effort, qui est la source même de la création, a été complètement oubliée. Donc, c'est pour ça que quand je dis méditer, on utilise un mantra, un résonateur, il n'y a aucun effort. On ferme les yeux, on lance. Et on voyage. On va réintégrer la loi du non-effort. Réintégrer des subtilités à travers ce voyage. Et l'ordre, la négantropie autour de nous va augmenter par un effet de propagation. On va essayer de faire propulser cet ordre à travers notre conscience.
Par rapport aux méditations,
oui.
Pour parler de méditation, vous avez parlé tout à l'heure aussi du Christ du voile. Donc ça serait se mettre dans des dynamiques qui seraient décollées de l'ordre et des religieux.
Tout à fait.
Être au-dessus de ça,
tout à fait.
Tout
à fait, au-delà du voile, tout à fait. Parce que la religion a structuré plus de séparabilité. Bon, il y a des gens religieux respectables, heureusement, qui se transcendent, qui ont leurs outils. Mais la religion en elle-même, globalement, je généralise là, hein, c'est pas... Globalement, a programmé énormément d'inhibitions et de séparabilité. Et les données de la religiosité, d'une façon globale, ne permettent pas d'aller au-delà du voile. Parce que la religion a structuré même le voile.
Est-ce que dans nos meilleures intentions, on n'est pas quelque part, on risque pas d'être piégé par, je ne sais pas si on change des mots, comme vous disiez tout à l'heure,
oui.
Je ne sais pas, une idée d'amour, j'en sais rien.
Oui.
À quoi ça peut se rapprocher? Est-ce que
à ta réalité non manifestée que tu vas exprimer en transcendant. Personne ne peut remplacer ton expérience réelle. Parce que c'est ton expérience intrinsèque. Il n'y a pas de connaissance sans pratique. Il faut un outil. Bien sûr, chaque science, dans chaque approche scientifique, il y a des hypothèses. Et pour être scientifique, il faut vérifier les hypothèses. Nous, on est en train d'émettre des hypothèses. La transcendance, l'unicité, la non-dualité. Mais on vous donne un outil pour expérimenter tout ça. Mais il ne faut pas, par exemple, après quelques méditations, je ne sens rien. Non, il faut un minimum de quelques mois. Après, bien sûr, on peut vérifier les hypothèses. C'est comme ça, d'une façon simple, expérimentale, on peut vérifier les hypothèses d'une approche. On a des hypothèses, des principes, on vous donne un outil, vous allez expérimenter. Et on va voir. Oui.
La méditation, elle est faite avec un support.
Ah oui, la méditation matricielle a pour support un mantra résonateur. Et on complète pour stabiliser les trois cerveaux, qui sont une réalité, parce qu'il faut qu'ils soient stabilisés, harmonisés. On utilise ce qu'on appelle les matrices agissantes, qui sont des structures vibratoires aussi. Il y a une matrice agissante de l'unicité pour structurer l'unicité dans notre corps, pour qu'on puisse comprendre l'unicité qui se manifeste. La non-dualité, parce qu'il y a une différence entre l'unicité et la non-dualité. Et la matrice agissante de l'effacement, le fameux pardon de l'enseignement christique. Mais il faut créer des résonances intérieures pour qu'on puisse comprendre et manifester réellement le pardon. On peut dire que pas mal de pathologies tournent autour de ce manque d'effacement et des nœuds énergétiques qui persistent dans notre conscience et qui sont centrés sur cet état de non-pardon et qui peut se transmettre de façon transgénérationnelle. Oui. Important.
Important, puisque finalement on se rend compte que si on agissait, enfin, si la physique avançait, si les scientifiques avançaient, et peut-être les grands mystiques avec, on aurait plus besoin de tout cet arsenal de machines pour la médecine, toutes ces pilules, puisqu'on trouverait la clé certainement à l'intérieur de nous pour
tout à fait. Tout à fait. Exactement. Exactement. Cet effacement doit avoir un substratum. Il faut un outil aussi pour intégrer l'effacement d'une façon réelle, profonde, transcendantale. Parce que si je me mets à pardonner d'une façon mentalisée, je reste au niveau superficiel. Il faut que l'effacement s'installe au-delà du voile pour que l'effacement soit intégré dans l'akasha cosmique. Et à ce moment-là, ça devient réel. Si tu veux, oui. Oui, on a plusieurs façons de définir la maladie. On peut la définir comme étant le manque de connexion. On peut définir comme l'exagération de la prise de conscience du voile. On peut la définir comme étant l'intégration effective du voile au niveau du corps physique. Les cellules sont aussi dans la mouvance du voile. Ils n'ont plus cette possibilité de se mouvoir dans la connexion. On peut la définir comme étant une information du voile qui va nourrir notre ADN. Et l'ADN va commencer à vibrer en compatibilité avec le voile. Plusieurs façons de la définir. Chaque niveau de conscience, on peut avoir une définition. Et j'aimerais bien, moi, définir la santé au lieu de définir la maladie. Parce que durant toutes mes années de médecine, on n'a jamais parlé de santé, on parle que de maladie.
C'est ce qui rapporte.
La santé, il faut la définir, parce que c'est ça, la santé, dans l'approche matricielle, c'est la connexion avec la source. Être en santé, c'est révéler sa complémentarité. Et ça veut dire qu'on peut ne pas être en bonne santé physique. Et on peut avoir notre complémentarité révélée à notre conscience. Et c'est ça l'essentiel. Peu importe le reste. Nous, on a fait l'inverse, le culte du corps, la longévité. On voit dans les spots publicitaires. Le lifting, la beauté physique, le rajeunissement, la molécule miracle. On est à la recherche de cette molécule miracle qui est un leurre de la matière lumineuse.
Une chose toute simple, le sommeil, c'est la reconnexion.
Ah, une bonne question, très bonne question. Le sommeil, pour moi, c'est un voyage. Et c'est un voyage initiatique. À travers chaque sommeil, on va pouvoir avoir la possibilité, normalement, le sommeil, c'est ça sa finalité. C'est d'activer le voyage pour qu'on puisse se reconnecter avec notre complémentarité. Ce qu'on a oublié. Malheureusement, on dort avec des gélules. On n'a plus la possibilité de faire un voyage réel, nocturne, la nuit. Souvent, on est bloqué durant ce voyage par ce qu'on appelle les phases astrales. Quand on veut se propulser vers notre identité, complémentarité, hop, on est capté par les résonances du voile et par le champ de l'astral. Pourquoi ? Parce qu'on a énormément de matrices en nous qui imprègnent notre conscience et qui sont en résonance harmonieuse avec le voile. Et le semblable attire le semblable. On va dormir et on va rentrer dans le QG du voile, l'astral. Là, qu'est-ce qu'il fait l'astral ? Il nous reprogramme. Il lance des programmes. On revient. Souvent, le sommeil est un moyen pour qu'on puisse être dans la reprogrammation du non-voile. On fait l'inverse. Et le voile va nous reprogrammer. On va se sentir mal à l'aise le matin. Oh, je suis fatigué, je n'ai pas pu dormir. Encore une nuit pénible. Encore, je ne peux pas. Oh, je vais prendre un peu de vitamine. Tiens, les cachets. Vitamine C. Le sommeil ne joue plus sa fonction, qui est une fonction initiatrice. Durant le sommeil, on contacte ce qu'on appelle le double de lumière, notre complémentarité. Durant le sommeil, qui est, dans certaines traditions, préparé avec beaucoup d'amour, on va rencontrer notre bien-aimé, notre partie réelle qui nous manque. C'est ça l'histoire de l'amour réel. Entre une projection illusoire dans le voile et sa nature qui est restée non manifestée. Et là, la rencontre se fait la nuit. C'est pas un hasard. Oui, 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 un petit peu dans ce sens. Oui, oui. Ouais. Alors, moi, je l'ai connu, c'est un ami, Jean-Pierre. Et il y avait une différence entre nous. Moi, je lui ai dit, on ne peut pas le préparer mentalement. Oui, je lui ai dit, je le prépare. Moi, je dis, Et mentalement, on reste toujours dans les mécanismes du voile. Il faut un outil plus profond. Moi, je dis, méditer, donner l'intention et dormir. Sur moi, tu donnes l'intention dans la transcendance. C'est la différence. Mais il a fait un travail formidable. On salue maintenant ce qu'il a fait. Ah, magnifique, Jean-Pierre.
Avec Philippe Bobola.
Et ils ne sont plus ensemble.
Oui, ils sont plus ensemble.
Tu connais bien Philippe. Hein.
Ah, ouais.
Oh, au départ, c'était programmé qu'on fasse à trois. Bon, ah, bon, chacun.
On a failli se rendre déjà.
Ouais.
Ils ont passé deux jours absolument fantastique.
Ah, ouais, ils font un travail formidable.
Et d'ailleurs, on en passe encore aussi
fantastique. Merci. Bon, mais c'est la même mouvance. On est des êtres un peu dans cette mouvance. Il y a tellement d'impulsions dans la fin du cycle qui réveillent les consciences. Chacun avec son propre langage. Mais on est des frères dans cette mouvance. On est tous là pour s'ouvrir, mais au niveau du cœur. C'est ça l'essentiel. Et la grande ouverture. Je vous remercie infiniment d'être dans cette ouverture et de cet élan. Merci, mes chers amis.
Merci.
Merci. Oui.
Excusez-moi, je voulais vous demander si vous aviez des références que vous vouliez pour nous citer.
Alors, il y a sur le site internet, les travaux de Conforto à propos de la matière lumineuse, détaillés. Il a même écrit un livre en italien, L'Universo Organique. Mais on peut trouver le je crois qu'il est en français aussi.
Juliana Conforto.
Alors, il y a le site de l'approche matricielle qui est d'actualité. Mais l'ancien, il y avait des détails aussi. Mais qu'on a enlevé, maintenant on est en train de faire un autre site. Il y a les travaux de Chopra, que vous connaissez très bien, que j'ai connu dans le mouvement de Maharishi il y a longtemps, et qu'on était destiné à faire un travail intéressant sur la physiologie et l'Ayurveda, que après il y avait un scientifique qui s'appelle Tony Nader, et qui a pris, qui a fait un travail intéressant. Correspondance entre la physiologie et les Védas, les sutras. Ce que fait maintenant la mère Sophie à travers les matrices principales, c'est venu d'une façon spontanée, on n'a jamais programmé quoi que ce soit. Donc on est en train de retrouver des mécanismes d'analogie entre ces matrices et l'activité physiologique du corps. Travail très particulier, qui demande beaucoup de temps, mais qui va redonner à chaque cellule, sa nature connexionnelle, parce que chaque cellule est voilée aussi. La même chose que notre conscience. Et les travaux de Jean-Pierre Garnier-Mallet aussi, son livre intéressant. Qui encore? Moi j'ai écrit un livre, L'être matriciel, mais tellement compliqué que parfois quand je le lis moi-même, je ne comprends pas grand-chose. C'était destiné au départ à une formation à Montréal, parce que j'ai commencé à Montréal à donner des... Et bon, il n'y en a plus, bon, heureusement, on ne le trouve plus, c'est terminé. Je suis en train de refaire un autre plus explicite. Voilà.
Et quand nous en sommes, il y a quand même un bouquin qui est très intéressant à lire, c'est... Et l'univers disparaît par étoile, le carré renard, on l'a peut-être déjà lu. C'est un bouquin magnifique.
Ah bon, j'ai pas lu ce livre, il est bien.
Ah, c'est magnifique.
Alors, Habibi, il est temps de lire un grand livre.
Oui.
Le livre intérieur.
Eh oui, c'est ça. De temps en temps.
Alors, tout à l'heure, on était dans la FNAC en train de voir des livres.
Ouais.
Ah, mère Sophie m'a dit, je ne peux plus lire maintenant. Je ne peux plus lire. J'ai compris ce qu'elle a dit. À force de transcender, on touche la réalité. Non. Le livre, un support, une petite joie intellectuelle, éphémère, certes, mais la transcendance. Oui. Ça peut avoir des ouvertures. Tout à fait. Mais il ne faut pas qu'il y ait aussi le culte de l'extériorité. D'abord, la transcendance, la méditation. Après, bien sûr, les livres peuvent nous expliquer quelques expériences, quelques situations. Ça peut nous aider, bien sûr.
Il ne faut pas rester toujours dans
la lecture. Ah oui. Oh, mais s'il n'y a pas un système, moi je crois que c'est la seule discipline dans l'approche matricielle. Parce que pour moi, la discipline émane du cerveau limbique. Toute discipline est une résonance limbique. C'est pour ça que la loi du non-effort sort un peu du cadre de la discipline. On ferme les yeux, on lance deux mots. Et la transcendance s'active.
Alors justement, les stages.
Alors les stages, il faut voir avec Fabienne, la mère Sophie et Jean-Marc. On est en train de structurer parce que je me suis dit, avant, on voulait centrer sur Sigoyer, Paris, Nice, parce que j'ai fait des formations dans ces villes. Et hier, je me suis dit, pourquoi pas chez les gens? On va donner une formation, par exemple, pas clairement hier, on a fait une conférence. Ici à Limoges, pourquoi pas une vingtaine de personnes démarrer une formation ici. On vient vous donner une formation. Pourquoi pas sur un week-end? Avec grand plaisir. Alors les détails, il faut voir avec tout ce qui est métallographique, avec Fabienne et Jean-Marc et Michel, et Michel bien sûr. Michel. Pour remercier Michel.
Rien n'est programmé. Rien n'est programmé. Donc déjà cette conférence s'est programmée un peu à la dernière minute.
Merci, merci.
Nous ne doutions pas de l'intérêt de sa venue à Limoges. Et d'ailleurs, ça se voit et ça se sent. On a du mal à discuter.
Ouais.
Il y a encore plein de gens qui ont plein de questions sur le bout des
lèvres. Oui, on peut, pas de problème, avec plaisir, avec plaisir.
C'est vrai qu'on a envie de continuer une conversation.
Alors, avec plaisir, oui, tout à fait. Tout à fait.
Alors, par rapport au stage. Actualisé. Il y a, si par exemple, approche matricielle, si vous allez trouver un site qui est en train de s'actualiser.
Il y a une page.
Il y a une page, oui. Il y avait, avant, il y avait énormément de pages empruntées du livre et les gens me disent « Oh, on n'a rien compris dans ce site. » Alors, je l'ai changé, j'ai même pas eu le temps de le renouveler.
Notre association non plus n'a pas encore de site internet, mais un site technicien.
Ah, que du travail, là. Sans effort. Hein.
Est-ce que le technicien pourra nous donner le blanc chiffre?
Pas de problème. Mais par contre, le seul problème, c'est que je doute de la qualité. Parce que
oui,
vous
non,
voyez l'appareil. Mais
en bon temps,
voilà. Si jamais il y a.
On va vous envoyer.
On va faire.
Parce qu'il y a un engin ici qui enregistre bien. Donc c'est. On va vous envoyer.
Oui, il y a deux petits engins, on les voit pas là sur la table. Ils sont en train d'enregistrer.
Voilà.
Celui de Jean-Marc et celui de Benjamin.
On peut faire ça.
Il y a quelqu'un sur garde qui doit faire un travail pour mettre cet enregistrement, pour enlever les blancs, pour faire des stocks à l'heure pour pouvoir les
voilà.
Partitions. Et on va faire un CD ou MP3 ou audio, ça dépendra du temps. Donc on va en envoyer un exemplaire ici, bien sûr. Et après, dans la mise en place du site internet, on va mettre aussi cette conférence et celle de Clermont-Ferrand que les gens pourront télécharger directement sur leur ordinateur. Et ça, c'est pas encore fait. Hein.
Que des choses du voile. Merci. Merci, mes chers amis.
Merci beaucoup à vous tous. Merci à vous.